VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Libération des marins américains détenus par l'Iran après que leurs deux navires soient entrés dans les eaux territoriales iraniennes dans le golfe Persique. Le Pentagone annonce que les marins ont maintenant quitté l'Iran et à bord des deux navires en question. Une enquête sera ouverte sur les circonstances de l'entrée des marins américains en territoire iranien. États-Unis toujours, dans son discours sur l'état de l'Union hier soir, le président Barack Obama a exhorté l'Amérique à ne pas céder à la peur face aux turbulences économiques comme à la menace du groupe État islamique qu'il a appelé à ne pas surestimer. À l'intention de ses adversaires politiques qui dénoncent l'absence de véritable stratégie face à l'État islamique, M. Obama a mis en garde à la tribune du Congrès contre les déclarations excessives selon lesquelles il s'agirait de la Troisième Guerre mondiale. Elles font le jeu des djihadistes, a-t-il averti. Retour sur les grandes lignes du discours du chef de l'exécutif américain avec Anastasie Toudiech.
Le président a déployé un plan ambitieux en quatre points. L'économie, d'abord. Après avoir affirmé avec force la place de l'Amérique au sommet de l'économie mondiale, Barack Obama a souligné les profondes mutations qui traversent le secteur, des mutations entamées bien avant la crise de 2008, a-t-il jugé, et pour laquelle les Américains sont armés, pour peu qu'ils en appellent à la capacité d'adaptation qui fait l'ADN du pays. Autre point crucial, la sécurité des Américains face à la menace terroriste. Il faut tout à la fois la prendre au sérieux et relativiser la capacité de nuire des terroristes, a affirmé en substance le président américain. On l'écoute.
Both Al-Qaïda and now ISIL pose a direct threat to our people because in today's world, even
les deux organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, sont une menace directe pour notre peuple parce que dans le monde d'aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui n'ont aucune considération pour la vie humaine, y compris la leur, peuvent causer beaucoup de dégâts.
L'Afrique aussi a été abordée, quoique brièvement, et sous l'angle de la maladie. Applaudi quand il a annoncé la fin prochaine de la propagation du virus VIH et du paludisme, le président est revenu sur l'action américaine dans la lutte contre Ebola, Barack Obama.
That's how we stopped the spread of Ebola in West Africa.
C'est ainsi que nous avons arrêté la progression d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nos militaires, nos médecins et nos experts en développement ont mis en place une plateforme qui a permis aux autres pays de nous aider à vaincre l'épidémie.
Le président américain a terminé son discours par une adresse à ses concitoyens, les appelant à un sursaut civique. Il a bien entendu le besoin de changement et est prêt à mettre ses dernières forces dans la bataille. Mais ce changement doit être une exigence du citoyen américain aussi, on l'écoute.
But I can't do these things on my own. Changes in our political process.
Mais je ne peux pas faire ces choses de moi-même. Les changements dans notre processus politique ne sont pas simplement liés à qui est élu ou comment il est élu. Cela arrivera si et seulement si les Américains le veulent. Cela dépendra de vous. C'est cela le gouvernement du peuple, par le peuple.
Les supporters ont pu reconnaître l'Obama du début, qui s'était distingué dans le rapprochement des contraires, pugnacité face aux défis sans écraser, volonté de rallier le peuple américain tout en lui rappelant la richesse de sa diversité et une manière d'assumer le leadership sans impérialisme, avec un regret toutefois exprimé clairement, celui de n'avoir pas eu le temps ou la possibilité d'assainir le climat politique.
Merci Anastasie. René Lake, analyste politique et directeur du site cneplus.com, loue le bilan africain du président Obama. On l'écoute au micro d'Anastasie.
Il a juste fait trois petites références. La première, c'est le rôle que les États-Unis ont joué dans l'installation de l'infrastructure de base dans la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai que l'Amérique a joué un rôle central, sinon le rôle principal de mise en place des infrastructures dans les pays affectés par Ebola. Il a également fait référence indirectement à son programme Feed the Future, un programme alimentaire, et il a également annoncé qu'on était très proche de l'éradication de la progression du VIH et du paludisme.
On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une volonté pour l'année qui reste au président Obama d'un dialogue face à face avec le continent qui au fond est noyé dans les pays qui doivent se prendre en main.
Je suis d'accord avec vous si on ne part que de ce discours. Mais ce discours est un discours à la nation américaine. J'ai une liste de tout ce que Obama a fait pour l'Afrique. Je pense que c'est absolument remarquable. Mais je crois qu'il y a encore d'autres initiatives qui vont être annoncées dans le courant de l'année. Mais je ne crois pas que c'était le lieu pour lui de le faire, parce qu'ici, son audience, elle est essentiellement une audience américaine. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est quand même relativement marginal par rapport aux préoccupations des Américains.
Le journaliste sénégalais René Ligue, joint par Anastasie Tudiech.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la composition du nouveau gouvernement est finalement connue. Le cabinet dirigé par le Premier ministre Paul Kabatieba comprend 29 membres. 5 femmes y occupent des portefeuilles, dont celui de l'économie et des finances. L'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, est chargé de l'administration du territoire et de la sécurité. 2 journalistes sont dans ce nouveau gouvernement. Le journaliste Alpha Barry, promoteur de Radio Omega, et le nouveau ministre des Affaires étrangères. Et Rémi Fulgence Diandinou devient ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement. Les sankaristes, longtemps opposés au régime de l'ex-président Blaise Compaoré, entrent dans ce premier gouvernement du président Roch Kabore. Au Bénin, 48 candidats, dont 4 femmes, ont officiellement déposé leur dossier pour l'élection présidentielle du 28 février, selon le président de la commission électorale Emmanuel Tiando. Après cette étape du dépôt des dossiers, la commission électorale nationale autonome béninoise dispose de 8 jours pour étudier les documents, puis les transmettre à la Cour constitutionnelle, après le paiement d'une caution de 15 millions de francs CFA par les différents candidats. La Cour aura alors 10 jours pour valider ses candidatures à l'élection présidentielle. Afrique centrale maintenant, en RDC, la Constitution nationale approuvée massivement par la population en 2006 aura 10 ans en février. Un groupe de Congolais opposé à sa modification ou son changement lance une campagne de sensibilisation. La CCT, Coalition des Congolais pour la Transition, veut empêcher le président Joseph Kabila de modifier la charte fondamentale. On écoute l'un des animateurs du groupe, Éléther Omari.
Étant donné la situation très catastrophique et dégradante au niveau de notre pays, la souffrance de notre peuple, la CCT se dit qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on arrive à une transition qui va préparer les élections libres et démocratiques, qui va donner lieu à une nouvelle république avec les normes démocratiques. Le dialogue organisé par M. Kabila égale la mort de tout cela qui réfute ce dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous disons ceci. Dans 15 ans de pouvoir de M. Kabila, le peuple congolais a enregistré un bilan catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous nous disons, on aura peur d'être emprisonné jusqu'à quand? On aura peur d'être assassiné jusqu'à quand? On se dit, qui veut la paix? Prépare la guerre. Nous, nous voulons la paix et par conséquent, cette paix a un prix. Le prix de cette paix, c'est l'emprisonnement, c'est l'assassinat. Nous nous disons que c'est aujourd'hui ou à jamais.
Éléther Omari, secrétaire général de la Coalition des Congolais pour la Transition. Au Cameroun, 12 personnes tuées aujourd'hui dans un attentat suicide contre une mosquée pendant la prière du matin dans une localité de la région de l'extrême nord, cible régulière des attaques des islamistes nigérians de Boko Haram. C'est ce qu'affirment des sources sécuritaires. L'attentat a ciblé la mosquée de Kouyapé, un petit village de l'arrondissement de Kolofata, proche de la frontière avec le Nigeria, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat une source sécuritaire de la région. En Turquie, l'enquête se poursuit après un attentat suicide dans le cœur touristique d'Istanbul attribué au groupe État islamique. Cet attentat a fait au moins 10 morts, dont 8 Allemands et un Péruvien, ainsi que 15 blessés. 3 mois après celle qui avait fait 103 morts lors d'une manifestation pro-kurde à Ankara, la capitale, cette nouvelle attaque a visé délibérément des étrangers et le tourisme, l'un des secteurs clés de l'économie turque. Et puis en Belgique, la police belge a identifié au moins 3 logements qui ont été loués dans le pays par les auteurs des attentats de Paris pour préparer leur attaque du 13 novembre. C'est ce qu'a indiqué le parquet fédéral belge. Ces 3 logements ont été loués sous de fausses identités. Plus d'un mois, voire 2 même avant les attentats, le loyer des 3 logements et la garantie ont tous été payés en liquide à leurs propriétaires respectives, a souligné le parquet belge. Et pour terminer, Corée du Sud, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye a appelé aujourd'hui la communauté internationale à réagir plus fermement au 4e essai nucléaire nord-coréen. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse que les précédentes sanctions n'ont pas réussi à dissuader Pyongyang de poursuivre son programme nucléaire. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.